parmi les annonciateurs de l'écologie politique, paradoxalement, on n'y pense pas souvent, il y a les écrivains de science-fiction.
Yves Frémion, écrivain, journaliste, critique de BD, ancien député européen vert et actuellement conseiller régional d'Île-de-France, auteur de « L'histoire de la révolution écologiste » publié aux éditions Webec, disponible chez Ecodif et dans toutes les librairies.
Alors évidemment, il y a les grands classiques de la science-fiction. Je pense à Aldous Huxley avec son Meilleur des mondes, qui décrit une espèce de cauchemar qui est finalement assez proche de certains grands utopistes des siècles précédents. Je pense bien évidemment à ce géant de la littérature du XXe siècle qui est George Orwell, pas seulement avec 1984, dans lequel pourtant il y a beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui qui sont décrites, mais je pense aussi à La ferme des animaux, c'est bien qu'il ait fait des allégories en fait du stalinisme, il a réussi à faire en même temps des allégories de l'ultralibéralisme. Donc ça, c'est très 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 fort. Mais dans la science-fiction plus moderne, enfin, quand je dis moderne, c'est une science-fiction qui a 40-50 ans quand même, pour les plus anciens, il faut dire un mot de ce qu'on a appelé l'école catastrophiste anglaise. C'est un certain nombre d'auteurs, alors le plus connu de tous, tiens, un écrivain magnifique qui s'appelle J.G. Ballard, mais il y a aussi John Brunner, il y a aussi Keith Roberts, Edmund Cooper ou Christopher Priest, ou John Christopher, ce sont des gens qui, dès les années 50, décrivent un monde qui est en proie aux désastres environnementaux. Par exemple, Ballard, il va faire un roman qui s'appelle Sécheresse, qui décrit justement un univers entièrement bouffé par la sécheresse. Dans le monde englouti, c'est les inondations. Dans le vent de nulle part, c'est au contraire un monde dévasté par les ouragans. Dans la forêt de cristal, on voit justement la disparition d'une forêt qui petit à petit se fige. Beaucoup décrivent effectivement des catastrophes terribles, l'Angleterre sous les eaux qui montent. Alors ça, c'est un thème tout à fait contemporain aujourd'hui. Et puis, en même temps, alors ils sont tous autour d'une revue révolutionnaire à l'époque qui s'appelle New Worlds, Nouveau Monde, et qui a beaucoup compté, notamment pour les jeunes écrivains de science-fiction dont personnellement j'ai fait partie dans les années 70. Et dans ces années 70, il y a également aux États-Unis des écrivains qui décrivent d'autres cauchemars. Alors très souvent, ça peut être lié à la catastrophe nucléaire quand même. Alors par exemple, un auteur comme William Tenn imagine un monde où tout le monde est réfugié dans des abris anti-atomiques au fond de son jardin. Il n'y a plus personne à la surface de la Terre. Dans une paranoïa totale qui est celle d'un bombardement nucléaire des Russes. On est en pleine guerre froide quand il écrit ça. Et on voit un père de famille qui autorise sa famille à sortir quelques secondes et chacun a le droit de faire le nombre de mètres qui correspond à ce qu'il peut courir en quelques secondes, c'est-à-dire les quelques secondes qui suivent la tombée d'une bombe. Et donc quand on est un enfant, on peut faire 2 mètres, quand on est la mère, on peut en faire une dizaine, et quand on est le père, on peut en faire 15. Donc c'est absolument terrifiant ce genre de récit. Évidemment, il y en a d'autres qui décrivent d'autres cauchemars. Évidemment, un écrivain magnifique comme Philippe Dick, qui a fait du simulacre le cœur de son œuvre, aujourd'hui est d'une actualité féroce. Mais c'est aussi Tom Dish qui décrit un monde entièrement transformé en camp de concentration. C'est Robert Delany, c'est Robert Silverberg, c'est Theodore Sturgeon, Clifford Simak, dans Demain les chiens par exemple. Ou Isaac Asimov qui dans les années 50, au début des années 50, imagine un monde où les gens ont tellement peur de communiquer qu'ils se sont réfugiés à l'intérieur de la Terre. Et ils vivent séparés les uns des autres, mais avec des moyens de communication très perfectionnés. Donc ils ont l'illusion en permanence d'être ensemble alors que tous sont seuls. Et comme allégorie d'Internet 30 ans avant son invention, c'est absolument génial. Donc voilà, tous ces auteurs amènent évidemment une jeune génération qui va être parmi ceux qui vont fonder l'écologie politique à réfléchir là-dessus. Et en France, alors oui, j'ai oublié quand même aux États-Unis. Le plus écolo de tous, c'est un écologue qui s'appelle Frank Herbert et qui, avec Dune, tout le cycle des romans de Dune, imagine un monde où tout est régi en fait sur des principes écologiques et notamment les fameux free men, les hommes libres, qui ressemblent évidemment beaucoup aux berbères et qui vivent dans un désert absolument sans eau et qui recyclent l'eau de leur corps en permanence pour pouvoir survivre. C'est vraiment formidable. Alors cette science-fiction qu'on rebaptise à l'époque « speculative fiction », il y a toute une génération d'auteurs en France qui vont la reprendre. Bon, ce sont des auteurs aujourd'hui qui sont en général toujours vivants, qu'on peut lire. Je pense à Michel Jury, à Jean-Pierre Andrevon, à Philippe Curval, à Gégis Arnaud, à Joël Vintrobert, à Emmanuel Joanne, à Pierre Christin, ou à Jean-Pierre Hubert qui lui est mort malheureusement. Autour de deux revues aussi très importantes, Univers chez J'ai lu et Alerte, qui est délibérément une revue de science-fiction écolo et qui le dit très, très haut dans tous ses numéros. Alors c'est très catastrophiste à cette époque, mais petit à petit cette école s'en détachera un petit peu et redécouvrira aussi les ancêtres que sont Ralph Messac, Daniel Drode ou René Barjavel, même si René Barjavel est absolument honni puisque c'est un homme très réactionnaire, très de droite, mais dans son livre « Ravage », il avait vraiment imaginé beaucoup de choses qui sont arrivées après. Et cette science-fiction a joué effectivement dans le brassage culturel post-68ard un rôle important dans la formation des idées, dans la transmission d'un certain nombre de concepts et dans ce qu'on pourrait appeler l'alerte écologique, l'alerte à la catastrophe. On s'est beaucoup moqué d'eux à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant, si on les relit aujourd'hui, c'est que toutes les catastrophes qui nous arrivent sur le climat étaient toutes soigneusement décrites dans tous ces livres 30 ans avant.